Yamani, voici nos informations en français.
Il est 18h dans les CNO, même heure sur l'ensemble du territoire national. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue aux informations. Voici les titres. Des attaques dans 4 villages du cercle de Bankass ont fait 34 morts. Des sources rapportent que le renfort de soldats maliens déployés sur place est également tombé dans une embuscade, faisant 7 morts. Démission du président de la République réclamée par le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Des observateurs estiment que, avec le dialogue, le changement est possible sans pour autant bouleverser les institutions. Les agences humanitaires des Nations Unies et les ONG ont signé une déclaration invitant les dirigeants des pays du Sahel à trouver des solutions à la crise sécuritaire, humanitaire et de développement que traverse la région. Elles l'ont fait savoir en marge du sommet du G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie. À la présentation, Mariam Meiga, Mamadou Ouattara est à la technique. Un calme précaire règne dans les 4 villages du cercle de Bankass après les attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés. Ces localités ont été visées cette semaine par des attaques simultanées ayant fait au moins 34 morts. Le renfort de soldats maliens envoyés sur place est également tombé dans une embuscade faisant 7 militaires tués. Les blessés ont été transportés dans les structures de santé et les habitants restent dans la puisqu'aux d'éventuelles nouvelles attaques. Cependant, des sources jointes sur place disent que les FAMA ont repris le contrôle de la zone. Le point avec Ousmane Nyalibouli.
Des hommes lourdement armés venus en pick-up et sur plusieurs motos ont attaqué le village de Gouari dans la commune de Tori. Les faits se sont déroulés hier jeudi 2 juillet après l'attaque du mercredi. Selon des sources locales, les assaillants sont arrivés dans le village et ont coïncidé avec les forces de sécurité maliennes. Dans cet affrontement, le bilan serait de 7 morts, plusieurs blessés, 4 véhicules de femmes ont été brûlés, rapportent les mêmes sources. Selon celles-ci, le calme est revenu aujourd'hui et les femmes ont repris le contrôle de la localité. Cette attaque intervient 24 après d'autres menées de manière simultanée. C'était dans la journée du mercredi 1er juillet 2020 dans 4 villages du cercle de Bankass. Il s'agit de Djamidon, Pangadougou, Djalaïkanda dans la commune de Djalassagou et le village de Gouari dans la commune de Tori. Selon des sources locales, au moins 34 personnes ont été tuées, plusieurs blessés, du bétail emporté et des dégâts matériels importants ont été enregistrés au cours de cette attaque. Une vingtaine de blessés ont été évacués au centre de santé de référence de Bankass hier jeudi. Selon des témoins, la majeure partie de ces villages ont été incendiés.
Ces attaques simultanées ont provoqué la psychose chez la population et le déplacement chez certains. Des rescapés blessés ont été transportés au centre de santé de référence de Bankass. L'un d'entre eux témoigne sous anonymat de la violence de l'attaque et les dégâts matériels énormes causés aux victimes. Il le vient par Mouda Issoufi Meiga.
Ils ont commencé par une petite village qu'on appelle Djibidou. Bon, après là-bas, directement, ils sont descendus à Gouari. Avant de rentrer au village, ils ont commencé à tuer encore. Bon, les personnes qui ont fait des attaques, nous, on ne sait pas tellement les identifier, mais eux, ils parlent des piles. Et puis, ils sont lourdement armés. Les pick-up, ils tuent, et puis ceux qui sont sur la moto, et ils font les rapissages. Nous, quand même, nous, ça va avec la moto, on a fui. Les vieilles femmes qui ne peuvent pas courir, et ils sont rentrés dans la maison pour se cacher. Nous aussi, moi, là où je suis là à parler, c'est le bon Dieu qui m'a sauvé, parce qu'on a vu les balles commencer à traverser à côté de nous. Les gens qui sont fuis, certains sont partis de la Sogou. Il y a une village de Néné qui est dans la commune de Djalassagou. Beaucoup de populations, ils sont venus à Touri. Ceux qui sont blessés, certains sont là ici à Touri et certains, ils sont évacués à Sévaré. Les militaires maliens ont venu faire les interventions après les attaques.
Rejoignez le cercle d'amis de Studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Les agences humanitaires des Nations Unies et les ONG travaillant dans les zones en proie à l'insécurité réclament plus de protection pour leurs agents et pour leurs populations vulnérables. Elles l'ont fait savoir dans une déclaration soumise aux dirigeants des pays du G5 Sahel lors du sommet tenu à Nouakchott, en Mauritanie, le 30 juin dernier. Romain Desclouses, porte-parole du SCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, est au micro de nos confrères de Mikado FM.
Le contexte sécuritaire dans le Sahel s'est considérablement dégradé ces derniers mois. Les situations de conflit qui prévalent dans la région entraînent des conséquences humanitaires sans précédent pour les populations civiles qui sont confrontées à l'insécurité et aux déplacements forcés. Nous inquiétons en particulier des rapports qui font état d'exécutions extrajudiciaires, de recrutements forcés, notamment d'enfants, d'enlèvements, de prises d'otages, de violences sexuelles, en plus de la stigmatisation grandissante et de discrimination à la compte de certains groupes qui sont soupçonnés d'être de connivence avec les groupes armés. La communauté humanitaire dans la région est ouverte à un dialogue avec le G5 Sahel pour faire progresser l'agenda du droit international humanitaire et garantir aux populations une assistance. La réponse à cette crise ne peut être seulement sécuritaire. Il s'agit de garantir la protection des civils, notamment les personnes déplacées, les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Il s'agit d'inscrire la protection des civils au cœur des opérations militaires dans l'espace du G5 Sahel, de condamner sans équivoque les violations des droits humains et adopter des mesures permanentes d'investigation des infractions commises par les forces de défense et de sécurité, mais aussi les groupes d'autodéfense, les éléments des groupes armés, et renforcer le système judiciaire pour assurer un accès à la justice pour les civils.
La convergence des forces républicaines rejette les propositions faites par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, en abrégé M5-RFP, comme alternative à la démission du président Ibeka. Est-ce que le dialogue est-il possible entre ces deux mouvements? Selon les observateurs, le dialogue est toujours nécessaire. Ils estiment d'ailleurs que le changement est possible sans pour autant bouleverser les institutions. Mamadou Boukoum, politologue, chercheur et joint par Alice Issi.
Le dialogue est toujours possible parce qu'il faut que les uns et les autres fassent des concessions. De toutes les façons, le dialogue il est permanent, il n'est jamais arrêté totalement. Il y a toujours cette possibilité de dialogue. On doit pouvoir arriver à un changement sans pour autant bouleverser les institutions, parce que la stabilité du pays aujourd'hui ne tient que à ces petites institutions, même si quelque part on pense que c'est des institutions mal élues, mal faites et tout ce qui est. Maintenant, s'il s'agit de faire une ouverture dans laquelle on va essayer ensemble de faire les réformes nécessaires en prémisse des élections 2023. Je pense que cette feuille de route, on peut bien l'élaborer. Mais aujourd'hui, mettre toutes les institutions à terre me paraît difficilement acceptable par une institution de la République telle que le président de la République.
La grève des enseignants a pris fin depuis plus de 2 semaines. Le gouvernement et les grévistes ont pu trouver un terrain d'entente. Cette reprise des cours est-elle effective? Est-ce que l'année scolaire peut être sauvée? Ce sont là, entre autres, des questions abordées dans ce reportage réalisé par Mamadou Samasekou.
Tout sauf une année blanche. Ces mots sont du représentant de la Fédération des associations des parents d'élèves étudiants du Mali. Il affirme aussi avoir fait une tournée dans certaines écoles, aussi bien privées que publiques, pour faire le constat de l'effectivité de la reprise. Daouda Sakou.
Effectivement, mais je suis passé dans certains établissements où l'ouverture était effective, mais je me suis rendu compte que les mesures barrières n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Alors quand j'ai pris contact avec quelques privés, je me suis rendu compte que là, il y a beaucoup d'inquiétudes pour le salaire des enseignants. Alors cette inquiétude peut amener aussi à des interruptions. Je crois que la situation présente dans nos écoles sont les conséquences des années blanches qu'on a mal gérées.
Le directeur national de l'enseignement fondamental bondit dans le même sens. Selon lui, les efforts sont en cours pour toujours faire évoluer la situation et aussi fixer la date des examens. Mahamadou Keïta, directeur national de l'enseignement fondamental.
Une année blanche n'est pas vraiment à l'ordre du jour et ce n'est pas une bonne solution pour un système éducatif. Nous sommes en train de réfléchir pour fixer les dates des examens. Bon, pour le moment, nous sommes dans un processus d'évaluation de la rentrée. À partir de ce taux-là, nous allons fixer les dates des examens. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller aux examens pour le plaisir d'y aller. Parmi les stratégies, nous avons réaménagé les emplois. On a développé une stratégie d'enseignement accéléré. Donc vraiment, le département n'est pas resté les bras croisés face à cette situation-là.
Par contre, des universitaires préconisent plutôt une année blanche qu'une année tronquée. Selon eux, cette situation est catastrophique pour le système d'enseignement au Mali. Docteur Mouriké Dambélé, universitaire.
Les bénéfices de cet enseignement de sauvetage sont bien maigres. Pour 2 ou 3 raisons également. Parce que finalement, on donne des enseignements sans avoir la certitude que ceux-ci puissent apporter quelque chose à l'apprenant. C'est cela qui est dangereux. C'est-à-dire on donne un vase vide qu'on va remplir pendant un petit temps. On a 1 mois, on a laissé 3 mois. Pendant les mois-là, on va remplir le vase. Ça, c'est un danger, c'est une catastrophe pédagogique. Et ça va accroître indéniablement la baisse de niveau chez les enfants. La pénalité sera forte pour les élèves de familles pauvres.
Plus de 50 milliards de francs CFA vont être déboursés par l'État pour satisfaire les doléances des enseignants grévistes. Par ailleurs, les examens de fin d'année concernent 480 143 élèves répartis dans les classes d'examen.
Covid-19, à la date de ce vendredi 3 juillet 2020, les autorités sanitaires du Mali ont enregistré 25 nouveaux cas, 5 guéris et 0 décès, ce qui fait au total 2285 cas positifs, 1507 guéris et 117 décès. Comment se propage la maladie à Covid-19? Écoutons ce message de Studio Tamani.
Comment l'épidémie Covid-19 se propage-t-elle? Le virus se transmet par contact direct avec des gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée, par exemple la personne tousse ou éternue. Il est aussi possible également d'être infecté en touchant des surfaces contaminées par le virus ou en se touchant le visage, par exemple les yeux, le nez ou la bouche. Le virus Covid-19 peut survivre sur des surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer, de la nécessité de désinfecter régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique ou de les laver avec de l'eau et du savon.
Un protocole de recherche de remède contre la COVID-19 démarre bientôt au Mali. C'est ce qu'annonce le responsable du Centre universitaire de recherche clinique au Mali. Comment fonctionne cette structure et dans quel cadre le traitement des échantillons et la collecte des informations sont effectués? Élément de réponse dans Actu COVID du jour. Le reportage est signé Moussa Mali Sissoukou.
Le centre est logé à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Il vise à promouvoir la recherche clinique et biomédicale au Mali et dans la sous-région. Selon le coordinateur d'études au centre universitaire de recherche clinique, les essais cliniques portent généralement sur les vaccins ou sur les molécules administrées. Dr Oumar Guindo explique les recherches cliniques qui sont déjà lancées. Selon lui, chaque protocole de recherche a une durée précise.
Nous sommes sur un protocole de recherche clinique d'Ebola. Donc le protocole est pour 5 ans. La deuxième année va commencer à partir du mois de juillet. En plus de ça, nous avons d'autres études sur aussi le palud, des médicaments antipaludiens comparés avec d'autres molécules qui existent. Et maintenant, nous allons vérifier les nouvelles molécules pour voir l'efficacité de ces produits-là contre le paludisme.
Autre protocole de recherche envisagé par le centre concerne la maladie à coronavirus, annonce Dr Oumar Guindo.
Il y a même actuellement un protocole. Le protocole en question est déjà fini. Peut-être dans les jours à venir, on va commencer et ça va se faire sur les malades déjà de Covid positif ou d'autres maladies comme les rhumes, les gens qui ont des difficultés respiratoires. Maintenant, par rapport aux maladies fébriles que nous disons, il y a Lassa, il y a par exemple la maladie de dengue. Ça, nous avons commencé le protocole il y a juste une semaine et ça également, ça va s'étendre sur 3 ans.
Rappelons que le centre est doté de 4 laboratoires, à savoir le laboratoire P3 de microbactériologie et des fièvres hémorragiques. Un laboratoire de biologie moléculaire, un laboratoire d'immunologie, un laboratoire de biologie clinique et une unité de recherche clinique.
La question d'auditeur du jour porte sur l'impact des manifestations sur le taux de contamination à la COVID-19. Elle est répondue par professeur Yacouba Toloba, spécialiste des maladies infectieuses.
Allô docteur, pourquoi les manifestations n'ont pas eu d'impact sur le taux de contamination?
On n'a pas ressenti comme un boom, nous en tant qu'agents de santé. Pourquoi ne pas tester ces personnes pour exactement voir l'impact? Parce que l'impact n'a pas été mesuré. Quand même, après les manifestations du 5, en tout cas dans mon sens, j'ai connu un pic. Et puis maintenant, il ne faut pas qu'on baisse les bras, l'alerte est toujours là.
Ainsi prend fin ActiCovid d'aujourd'hui. À demain pour d'autres infos. N'oubliez pas, pour vous protéger du coronavirus, évitez les poignées de main et les accolades.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Koulikoro, où plus de 30 tonnes de produits périmés ont été incinérées ce jeudi par la Direction régionale du commerce et de la concurrence. D'une valeur de plus de 20 millions de nos francs, ce stock de produits brûlés est composé des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cigarettes, des produits non homologués et de contrefaçon. Le directeur régional du commerce et de la concurrence de Koulikoro a saisi l'occasion pour inviter les consommateurs à la vigilance vigilance par rapport à la date de péremption des produits alimentaires. Une vingtaine de poubelles, 5 brouillettes, 5 pelles, 5 râteaux, 5 pics et 100 sacs vides ont été offerts par le ministère de l'assainissement et du développement durable à l'association Kaika Okumakan ce jeudi au gouvernorat de la localité. 100 lampadaires solaires ont été également offerts par la diaspora de la région. Selon les bénéficiaires, ces matériels seront mis à la disposition de la ville de Kaï dans le cadre de l'assainissement et de l'éclairage de la ville. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Meiga. Mamadou Ouattara assure la technique. Ne décrochez pas car l'info continue. C'est